bien. C'était le retour sur le terrain du maire Marchand aussi. Notre ami Mathias Turcotte qui est avec nous autres en studio. Salut Mathias.
Bonjour.
Hey, avec ton radioton là, de plusieurs jours en ligne, t'as ramassé combien pour les enfants malades finalement?
Ben, heureusement, c'était pas plusieurs jours en ligne, c'était juste une journée hier avec Jeff. J'aurais aimé ça pouvoir te dire qu'on a ramassé bien d'argent, là, mais c'est pas
de même, ça marche.
C'est ça.
Vous en faites un autre vendredi, là,
ouais,
de ce que
exactement,
j'ai compris.
Ouais, okay. Moi et Jeff, on reprend Flambeau de 6h à 14h vendredi aussi.
Ça fait-tu du bien de retourner sur le terrain un peu, d'aller voir les journalistes, d'aller voir monsieur le maire?
Écoute, je m'ennuyais du maire. C'était, ben, tu dois comprendre ça, toi, Denis. Là. Je m'ennuyais beaucoup du maire Marchand aujourd'hui.
C'est ce que c'est, hein, oui. J'ai assez hâte qu'il revienne en entrevue.
Ben,
je le disais justement, Audrey, tantôt.
Ah, écoute, c'est prévu pour le début de la semaine prochaine. Là, ouais. Fait que tu peux commencer à rêver.
Les auditeurs de
Vous n'êtes pas vu pendant les vacances?
Ben, j'étais en Italie. Là, j'ai publié mon reel Instagram. Tu l'as pas vu? On a passé de très belles vacances en Italie. Puis de toute façon, les auditeurs de Gravel dans le retour le savent. S'il y a une chose que j'aime dans ma job d'animateur radio, c'est de faire des entrevues politiques avec le maire. C'est ce que j'aime le plus.
Plus sérieusement, si je peux vous décrire le visage de Denis à chaque fois que je dis « Bon, on va être dû pour recevoir bientôt le maire. » Vous avez réussi à faire en sorte qu'il détestait ce moment-là.
Oui, oui. Parce que c'est ça. On essaye de faire le tour de tous les sujets. On essaye de faire la job de la façon la plus honnête possible. Mais les gens qui haïssent le maire l'haïssent vraiment. Une nouvelle de dernière heure,
oui,
Véro?
Oui, c'est TVA qui vient de le sortir. Je suis en train de valider les informations, mais la candidate du Parti québécois dans Taschereau se retirerait. Taschereau, actuellement, c'est Étienne Grandmont qui est là. Il y a Fernelle Morissette qui se présente pour le Parti libéral.
Jeanne Robin, qu'elle s'appelle?
Jeanne Robin, ouais. C'est un nom qui est connu, Jeanne Robin.
Ben, elle s'était présentée pour le PQ dans Taschereau lors de l'élection de 2022,
hein?
Si je ne me trompe pas.
Elle dit que son retrait n'a rien à voir avec des désaccords sur les positions du parti. Donc, c'est peut-être pour des raisons personnelles. Là. Je vois qu'elle a posté un long truc sur Facebook. On verra ce que le Parti québécois va faire. D'autant plus que dans la région, on le dit souvent, là, ça va être des luttes chaudes, des luttes serrées. Perdre une candidate à ce stade, si c'est vraiment pas une bonne nouvelle.
Taschereau qui avait été le bastion de Agnès Maltais pendant de nombreuses années.
Ben oui, effectivement.
Puis dans Taschereau, c'est très, très serré avec Québec solidaire. Là, 31% Québec solidaire, PQ deuxième à 29. Donc, c'est une circonscription qui est prenable. Plusieurs vont pointer le fait aussi que c'est un drôle d'hasard. On n'a pas le choix de faire de lien avec la sortie de PSPP ce matin. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'elle a démissionné.
Mais... Elle en fait pas de lien, mais en même temps, ça s'adonne que ça arrive la même journée. Hey, au total tout, là, il va en avoir eu pas mal. Hein, des retraits de gens qui voulaient plonger en politique, puis finalement qui ont décidé, après avoir mis leur tête dans l'eau, que ça ferait pas. Là.
Oui, quand même. Puis dans quasiment toutes les couleurs de partis, je te dirais. T'sais, la CAQ, c'était normal. Là, beaucoup, entre autres, de députés qui étaient là depuis un certain temps, qui, avec les sondages, ont fait OK de Charbel, mais c'est arrivé au Parti libéral à quelques reprises, entre autres, dans la région de Québec. Là, c'est autour du PQ là-dedans. Fait que à suivre.
Il y a des auditeurs qui proposent le livre brun après le livre noir. Je pense pas que c'est une avenue que le Parti conservateur va explorer. Puis là, je vais vous laisser faire plein de jokes de mauvais goût tout seul.
C'est épouvantable.
Je les ferai pas. On va revenir au point de presse du maire. Qu'est-ce qu'il y avait de bon à dire aujourd'hui?
Oui, bien, retour de vacances après environ là, un mois de vacances. On a donc fait un gros tour de l'actualité des derniers jours. Puis à commencer, on est revenu sur une mesure que le maire avait évoquée quelques fois au cours de la dernière année. Pour la première fois, notamment en février dernier. Une taxe sur les déchets et l'eau qu'on voulait ajouter aux entreprises. Du côté du maire Marchand, on avait dit qu'il faut qu'on change ces pratiques-là. Sinon, je vais mettre en place une taxe. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'était assez clair que ça doit être au prochain budget.
On s'en doutait. Hein?
Et on a parlé de la taxe sur l'eau et de la taxe sur le recyclage des entreprises, ce qu'on appelle ICI, là, institutions, commerce et... industrie, pardon. Les vacances, sont... il me manquait un « i ». Ça va venir, c'est sûr. On n'a pas bougé.
Au cours des prochains conseils?
Bien, ça va venir pour le prochain budget. C'est impossible d'éviter le bâton. C'est possible individuellement de l'éviter au sens où les gens vont pouvoir jouer sur leur facture en recyclant, en utilisant mieux l'eau. Mais c'est pas. Le bâton, dans le prochain budget, il va venir.
Au fil de nos conversations mensuelles, on avait compris que c'était juste l'étape d'après là, du processus où on veut serrer la vis aux entreprises.
Je vais donner l'exemple de l'immeuble où on travaille, qui est supposé être un immeuble LED, là, qui est censé être éco puis toute l'équipe, qui n'a pas de recyclage.
C'est un immeuble laid, hein, t'accordes très mal.
C'est censé être un immeuble vert. Il n'y a aucun recyclage qui se fait à l'intérieur de l'immeuble. T'sais, si on apprenait que c'est à ville où il n'y avait pas de recyclage, puis qu'on gérait mal l'eau, puis que ça nous coûtait plus cher comme contribuables, on serait les premiers à dire « Hey, faut qu'ils fassent attention, c'est nous autres qui finissons par payer. » Fait que là, je le sais que ce qu'on va entendre, c'est « Ça n'a pas de bon sens de taxer encore plus nos entreprises. » Ils ont des moyens que ça leur coûte pas aussi cher.
Puis pour la ville, ça coûte beaucoup d'argent. Le maire l'avait mis de l'avant en février dernier.
Pour les contribuables.
Ben, si ça coûte cher pour la ville, directement, c'est dans la poche du contribuable qu'on vient le chercher. C'est 7,8 millions en 2025 qu'on avait payé pour brûler du carton. Ben, pour faire
un jeu de mots, oui,
qu'on brûle à l'incinérateur en brûlant ce carton-là.
Ben, tu sais, ici, juste avec le nombre de papiers qu'on n'est pas en mesure de mettre dans le recyclage, on a abattu probablement plus d'arbres à boulevard 102-1 dans la dernière année que la ville a abattu d'arbres pour faire la trail du tramway. Là. Puis là, je veux pas que Stéphane Lachance vienne camper ici.
Fais donc attention, toi.
Mais à titre de comparable, là, c'est peut-être le temps qu'on serre la vis à certaines entreprises.
Qui savaient déjà qu'ils avaient été avisés.
Il y a eu un avertissement. On a dit si la situation ne s'améliore pas, ça va être mis en place. Puis de ce qu'on comprend, la situation ne s'est pas améliorée.
Mathias, depuis vendredi, c'est le sujet qui fait le plus réagir avec raison. Ce qui s'est passé sur le pont La Porte vendredi soir, bien peu d'infiltrations, plutôt bien peu d'informations qui ont filtré. Bien peu de communication aussi de la part des autorités. Dans une ville où on n'est pas habitué de se faire brasser, puis on n'aime pas ça. Notre sentiment de sécurité à Québec, c'est quelque chose qui est important. Ça fait partie des raisons premières pour lesquelles il y a des familles, il y a des gens, il y a des retraités, il y a des travailleurs qui viennent s'installer à Québec. Je trouve pas que c'est un bon axe de communication de laisser les gens comme en c'est plan. Puis on avait hâte d'entendre le maire réagir à ce qui s'est passé et aussi au manque d'informations depuis.
Oui, bien j'ai posé la question au maire. Est-ce que c'est sain de faire de la sorte, de ne pas fournir d'informations?
La réponse est idéalement non. Notre question est très légitime. Je présume, puis là, vous comprenez, je suis loin, là, c'est d'autres corps policiers qui sont dans cette enquête-là et c'est normal, c'est là que ça s'est passé. S'ils ne le font pas, je pense pas que c'est dans un but de retenir l'information. Mais vous avez raison que l'effet délétère, c'est que ça fait partir un paquet de rumeurs, un paquet de gens qui émettent des hypothèses qui parfois peuvent être très farfelues. Mais si la police ne les met pas, je pense pas qu'au Québec, on a un enjeu de rétention de l'information par les services policiers.
Puis en même temps, bien, la nature a horreur du vide. L'information va tellement vite qu'on est habitué maintenant, à l'espace d'une demi-heure, d'à peu près tout savoir. Ouais. Des fois, on saute aux conclusions trop vite, puis on l'a vu dans l'histoire de la tuerie de Montréal. On avait tout compris que la policière avait tiré sur un civil, puis finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Mm-hmm. Donc, faut faire attention, faut être prudent. Mais c'est pas normal qu'on soit rendu le mardi après-midi et qu'on ait aussi peu d'informations sur ce qui est arrivé dans notre ville.
C'est effectivement, c'est la SQ qui est en charge. Vu que c'est le pont, c'est les routes provinciales, c'est sous la responsabilité de la sécurité intérieure maintenant. C'est eux qui, dès le départ, auraient dû dire « secteur à éviter », c'est eux qui auraient dû donner des détails, c'est eux qui auraient dû envoyer des communiqués.
Quand Éric Sauvé nous a appris que c'est même pas les policiers qui ont guidé les gens à retourner vers leur véhicule en fin de soirée...
Absolument.
Tu sais, maintenant, ils se sont dit, bon, ben ça doit être fini, on va retourner dans nos chars. Les gens ont été laissés à eux-mêmes sur le pont. Puis après ça, nous autres, on a été laissés à nous-mêmes à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé puis pourquoi.
Parce que, tu sais, quand il y a eu des événements qui se sont déroulés sur le territoire de la ville de Québec, que ce soit de la plus petite affaire aux affaires les plus grandes, ils sont très rapides sur les médias sociaux, entre autres,
ben oui,
à dire éviter tel secteur. Moi, je me serais attendue à ça.
Le gars phoné là, sur le Twitter de la SQ, il n'y a rien à dire là, cette semaine.
Ben, c'est-tu la période estivale? C'est-tu la SQ en L'heure. Région qui est moins bien équipée? Mais encore, là, tu travailles 24-7.
Ah, je suis d'accord avec toi.
Le gars du Twitter de la SQ, il est comme Olivier Primo. Là, quand ça brasse, il devient invisible.
Oui, sa job n'est pas de faire ce genre
c'est
de communication-là.
On ne peut pas trouver quand c'est sa tête.
Mais s'ils veulent faire un damage control, de savoir comment ça fonctionne, les communications en situation d'urgence, ça serait quelque chose qui pourrait être super intéressant. Puis je comprends que la question a été posée au maire, mais tu sais, ici, la police de Québec aurait rien pu faire, pas peut-être dire, hey, accès dans le, pour se rendre sur la rive sud actuellement, complexe, ou je sais pas trop.
Ben, mais c'est ça. Puis le maire l'a précisé, le seul travail que le service de police de la ville de Québec a effectué, c'est de fermer le pont Pierre-Laporte. Mm. C'est de s'occuper de cet aspect-là. Puis de ce côté-là, la communication a somme toute été bien faite. À partir de ce moment-là, c'est dans la cour de la SQ. On a aussi parlé par le fait même de troisième lien. On est revenu sur la vidéo que Éric Duhaime avait faite sur le sujet, sur la proposition du Parti conservateur. La question a été posée au maire Marchand. Est-ce que l'événement qui s'est produit dans cette nuit-là justifie un troisième lien?
Quand M. Duhaime dit « je vais passer sur l'île », bien, vous voyez, ce matin, il y a des camionneurs qui disent « ouais, mais est-ce qu'on va être capable de vraiment fluidifier sur l'île parce que la route n'est pas faite pour ça? » Ça suppose de présenter un projet puis de démontrer à quel point ça améliore la vie des gens. Ma position, elle ne bouge pas. Vous croyez au troisième lien? Démontrez en quoi la solution que vous présentez va améliorer la vie des gens de Québec. Et ça, on ne peut pas juste le démontrer par un événement qui se passe, qui est tragique, là, mais qui se passe un soir, qui est très malheureux. Il faut le démontrer au quotidien. Comment ça va améliorer la vie des gens?
Moi, je suis d'accord avec ça. Je veux dire, c'est quelque chose de particulier, ce qui s'est passé vendredi soir. Moi, dans ma tête à moi, le troisième lien, c'est pour régler des problèmes de trafic au quotidien.
Ouais, ça,
c'est pas pour gérer de l'exceptionnel.
Je comprends que c'est pas pour gérer de l'exceptionnel, mais au Québec, c'est rendu que quand on rénove une école ou un pont, on se rend compte qu'il y a des problèmes qui font qu'on doit les fermer pendant des mois.
Ouais.
C'est putain de l'exceptionnel. L'événement de vendredi à samedi l'est, mais le fait qu'on est négligent puis on pèle par en avant avec nos infrastructures puis qu'on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, pendant une période plus longue, on se retrouve avec le fuck-up de « les camions peuvent pas passer dans le coin », faut quand même le considérer. Là.
Tabarnouche, t'es dark. C'est toi qui as écrit le livre noir des conservateurs.
C'est ça que je faisais à temps perdu cet été. Non, mais sans joke.
Tu peux avoir un été de marge.
Je comprends le point du mal. Puis actuellement, il n'y a aucun parti qui défend bien le projet de troisième lien. Il n'y a aucun parti qui est arrivé avec de bons arguments pour ça. Puis si ça donne des situations comme on vit là avec le maire qui dit « moi, j'attends encore ».
Et d'ailleurs, Bruno Marchand, aujourd'hui, puis ça, j'avoue que j'ai été surpris au vu de sa relation avec Éric Duhaime au cours des derniers mois, mais a dit qu'il comprenait le fait qu'Éric Duhaime aille utiliser l'événement pour faire du capital politique.
Okay.
Il n'a pas nécessairement critiqué le chef du Parti conservateur sur ce sujet-là. Je termine parce qu'on a quand même parlé de la liste d'épicerie du maire pour l'élection à venir. La capitale nationale est importante. On est revenu sur l'itinérance. On est revenu sur les infrastructures. On est revenu sur la fiscalité municipale. Des thèmes que le maire aborde régulièrement pour la campagne à venir. Mais on a mis beaucoup d'accent sur un enjeu en particulier qui semble être abandonné par de plus en plus de partis au Québec, l'environnement.
Je vais moi-même ramener la question des changements climatiques. Je ne crois pas à ceux qui font dire au sondage que les gens sont peu intéressés au changement climatique. Je ne crois pas, après l'été qu'on vient de vivre, que l'adaptation au changement climatique ne fait pas partie des réalités des citoyens. Quand on se voit son sous-sol inondé, quand on se voit dans des îlots de chaleur, quand on se voit face à des enjeux où on attend toujours une pluie diluvienne sur 1000 ans qui arrive fréquemment, on l'a vu dans des villes du Québec, je ne crois pas que les citoyens s'en foutent complètement.
C'est quand même paradoxal la journée où Québec solidaire puis Ruba Gazal commencent à dire qu'ils sont conscients de la fatigue climatique et qu'ils ont l'intention de laisser du lest aux familles. Mais c'est les villes qui paient les conséquences, par exemple.
Là, c'est là que je vais bitcher. Ça paraît que le maire Marchand n'était pas ici pendant une bonne partie de ses vacances cet été. Hein? Parce que, sérieusement... Puis moi, ça fait partie des choses qui me font un peu chier en politique, là. Le maire a ce discours-là, pourquoi? Parce que la prochaine élection, elle est loin, loin, loin devant, puis qu'il vient d'être élu avec sa majorité, puis de battre deux oppositions. C'est un gars qui est en position de force. Pourquoi l'environnement est juste important pour des gens qui n'ont rien à perdre au niveau politique? Parce que présentement, tu ne gagnes pas de vote avec ça. Pourquoi? Parce que l'environnement, c'est un enjeu... C'est un enjeu de Bono. Tu sais, je suis chanteur de YouTube. J'ai pas de misère à faire mon épicerie aux deux semaines. J'ai pas de misère à payer mon loyer. J'ai pas de misère à payer mon transport.
Mais c'est pas prioritaire pour monsieur, madame, tout le monde.
Ben non, ça peut le devenir. Quand tout va bien, c'est sûr qu'on va se concentrer sur des événements comme ceux-là. Mais tu peux pas demander à un citoyen ordinaire d'être conscient des problèmes environnementaux, c'est une chose, mais de mettre ça en priorité quand tu as de la misère à boucler ton budget à chaque semaine puis à chaque mois.
Tu sais, la ville peut mettre du poids sur non pas lutter contre les changements climatiques, parce que c'est les villes qui paient pour la gestion des conséquences. Tu sais, il n'y a pas tort là, quand tu parles de sous-sol inondé, puis il y a des impacts que c'est sûr que si ça ne vous arrive pas chez vous, vous allez vous en sacrer comme de l'an 40, mais du moment où c'est votre secteur qui devient problématique, là, à un moment donné, vous allez peut-être considérer ça aussi. Mais c'est les villes qui doivent absorber ces coûts-là. Mais là, je ne pense pas que c'est là-dedans qu'ils s'en aillent.
Je trouve ça dommage parce que présentement, à Québec, je pense qu'on a une occasion en or, de faire avancer la région.
Oui, mais c'est la région qu'il faut voir, pas son agenda à lui, c'est ça qu'il va falloir qu'il ajuste.
Ben, il a de l'air parti dans sa croisade environnementale. Les détracteurs de Bruno Marchand ne seront pas contents, puis ça serait dommage qu'on laisse passer cette opportunité-là, parce que dans la région de Québec, il y a trois partis qui essayent de faire en sorte qu'ils gagnent la région. C'est la région où ça va être le plus serré, où les luttes vont être les plus chaudes. C'est supposé d'être notre porte-parole. Je pense pas que présentement... l'enjeu numéro un chez les citoyens de Québec, ce soit les réchauffements climatiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas au réchauffement climatique.
Non, mais ce n'est pas dans le top 3 des priorités.
Exact.
Comment on s'arrange pour que le message se rende?
Ben, il vient la semaine prochaine.
Mais c'est quoi les manières d'être le plus efficace?
Ben, on va y crier des choses. Là,
ça apporte rien.
Mais pas de farce. Moi, je veux saisir l'opportunité d'avoir cette discussion-là avec le maire, c'est sûr et certain. Puis ces sondages-là, je veux dire, tu peux pas juste prendre les sondages quand ils disent ce que tu veux te faire dire. Tu sais, dans les sondages radio, pourquoi la façon de sonder change à peu près jamais? Parce que ceux qui sont numéro un, ils disent jamais là, que là, la façon de sonder, c'est problématique et tout ça. Quand tu es numéro 4, c'est vrai, la façon de sonder le monde, c'est plus ça, puis on a des problèmes, puis il faut changer ça. Mais là, tu tombes numéro un, puis là, soudainement, les problèmes, ils sont plus graves. C'est un peu la même chose, là. Tu sais, si le sondage...
C'est comme les réformes électorales.
Mais oui, c'est parce que si le sondage disait la préoccupation numéro un des gens, c'est l'environnement présentement au Québec, Bruno Marchand se servirait du sondage pour dire, bon, on part avec ça. Là, le sondage... il dit complètement l'inverse.
Exactement.
On l'a vu, là. Présentement, c'est des problèmes d'inquiétude économique. Au niveau international, au niveau local, au niveau du budget, au niveau du résidentiel, du locatif, les inquiétudes des gens sont là. Je pense que la moindre des délicatesses et le moindre signe de respect envers les électeurs, ce serait de reconnaître les besoins présentement puis d'être leur porte-voix. Il faut se faire entendre à Québec pendant cette campagne électorale-là. Il y a des gens qui peuvent nous promettre bien des affaires. Encore faut-il être sur les bons enjeux.
Tu parles du sondage, Denis. Là, c'est le sondage léger qui est sorti il y a de ça une semaine, environ deux semaines.
Peut-être
là.
Même plus, oui.
C'est 11 % des Québécois pour qui l'environnement est en enjeu déterminant.
Comparativement à d'autres enjeux. Où
48 % pour santé, 42 % pour coût de la vie, par exemple.
C'est un sondage qui parle de lui-même. Là. Hey, merci Mathias.
Ça fait plaisir, Denis. J'imagine que tu as hâte à demain.
Qu'est-ce qu'il y a demain?
Ben, on va finalement connaître la date de la coupe des arbres sur René Lévesque.
Ah ben oui, j'ai assez hâte. Ma chaîne, ça, chez nous, est pleine de gaz. Là. J'attends rien que ça.
Ben moi, j'allais
comme
dire...
si tu savais t'en servir.
J'allais dire, maintenant, tu connais la date à laquelle tu dois aller t'enchaîner à un arbre. Non, c'est pas ça?
Okay. Non, moi, c'est drôle. Je me dis, où on défend les arbres, où on les défend pas. Je choisis pas les arbres dépendamment de quel projet je veux voir avancer.
Ah non, t'es pas un défenseur à géométrie variable.
Ben, c'est parce que je me dis, j'ai défend ou j'ai défend pas, sans ça, je trouverais que j'aurais de l'air, tweet. Merci, Mathias.
Ça fait plaisir.
Il est 15h17, vous êtes à Boulevard, c'est Gravel dans le retour.
Pour joindre l'équipe de Gravel dans...
En ajustement prix Toto sur les F-150 2026 admissibles et jusqu'à 9 015 $ sur les Bronco Sport 2026 admissibles.
Et le plus impressionnant, profitez de notre vaste inventaire et de la livraison le jour de votre achat.
Les prix employés chez Ford, c'est maintenant chez Desjardins Auto Collection.
Un Ford, ça se prend chez Desjardins Ford.
Vous avez besoin de cartouches d'encre, de toneurs laser, de fournitures d'impression? Pensez à Cartouches Multiservices. C'est votre spécialiste local à Québec avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine. Vous allez trouver des cartouches compatibles et recyclées pour les principales marques d'imprimantes du HP, Canon, Brother, Epson, Lexmark, Pentum, Samsung et des produits de qualité qui vont vous permettre de réduire vos coûts d'impression sans compromettre la qualité. Que vous soyez un particulier, une entreprise, une école, un organisme, bien, Cartouches Multiservices, ils vous offrent un service rapide et personnalisé, puis les prix sont compétitifs. Vous allez aussi retrouver des accessoires informatiques, des accessoires pour cellulaires, des services d'entretien d'ordinateur et tous les produits sont couverts par une garantie de satisfaction à 100 %. Pour vos besoins d'impression et d'informatique à Québec, encouragez local et faites confiance à Cartouches Multiservices. Pour tous les détails et pour magasiner en ligne, cartouchesmultiservices.ca.
Envie d'un week-end qui sort.
Dans les prochaines minutes, on va reparler d'actualité, de politique. On va se brancher avec Antonine Iaccarini, d'ailleurs. On va vous confirmer qu'une fois par semaine, au moins, on va être en mesure de faire notre petit bilan politique ensemble. Antonine Iaccarini qui garde son caucus sur l'heure du midi. Il y en a qui se posaient la question avec les annonces de ce matin. On perd-tu en taux? Non, 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 pas du tout. Non seulement vous la gardez, mais en plus, vous allez l'entendre régulièrement dans le retour. Hey, je suis en train de lire qu'ils vont rendre hommage à Carey Price le 10 novembre prochain du côté du Centre Bell. On peut avoir tous les débats qu'on veut sur la place de Carey Price dans l'historique des meilleurs gardiens de but de l'histoire du CH. Mais on vous rappelle qu'il sera intronisé au Temple de la renommée du hockey. Et il y aura une cérémonie d'avant-match sur la glace le 10 novembre,
le
alors que le Wild du Minnesota sera au Centre Bell. Je saisis l'opportunité pour vous parler de sport un peu, parce que dans les prochaines semaines, c'est un des événements les plus attendus des amateurs de hockey. C'est la sortie du nouveau NHL, le NHL 27 de EA Sports, et les notes des joueurs du Canadien ont commencé à sortir. Puis ça, ces notes-là, c'est drôle parce qu'il n'y a pas seulement les amateurs de hockey qui regardent. Les joueurs eux-mêmes voient ça comme une évaluation et comme un bulletin de leur dernière saison. Et pour la première fois de sa carrière, Connor McDavid rentre dans le club des élites de la Ligue nationale de hockey parce que cette année, si vous jouez au jeu NHL 97 qui va sortir le 11 septembre prochain sur les nouvelles consoles...
NHL 97?
J'ai dit... c'est le bon vieux temps, là. NHL 27.
OK, t'étais dans ton passé, ta nostalgie.
Comme 97, puis là, je voyais des petites cases dans ma tête.
Le pire, c'est qu'on joue à ces jeux-là depuis 1994, de mémoire. J'allais vous dire que Connor McDavid a une note de 99 sur 100 sur le jeu cette année. C'est la première fois de sa carrière que ça arrive. Qui est le joueur du Canadien qui aura la note la plus élevée chez les attaquants? Il est placé en 14e position dans la Ligue nationale de hockey présentement. C'est le gars qui a fait une saison de 100 points. C'est le capitaine. Nick Suzuki, une note de 93 %. Cole Caulfield, saison de 50 buts, a une note de 90 % cette année.
Fait qu'ils mettent la note sur la saison régulière puis pas sur les séries.
Peut-être qu'on prend justement en note la performance ou la contre-performance de Cole Caulfield en série pour lui enlever quelques points par rapport à Nick Suzuki. Lui, en passant... les séries de l'année prochaine, il va la sentir, la pression. Hein?
Ça va être ridicule.
Puis, faut s'admettre qu'il y a des joueurs excessivement talentueux qui ne sont pas des joueurs de série. Moi, j'ai bien de la peine, là, mais depuis quelques années, il a fallu que je me rende à l'évidence en tant que partisan des Bruins de Boston. David Pastrniak, qui est un des joueurs les plus talentueux de la Ligue, si on parle juste de talent pur, en série, il n'est pas là. En série, il n'aime pas ça se faire écœurer. Il n'aime pas ça se faire brasser. Puis quand t'es 4, 5, 6, 7 games, une en arrière de l'autre, à jouer tout le temps contre les mêmes fatigants, c'est pas le même genre de hockey. C'est pas tout le monde qui est fait
là,
pour ça.
Tu te retrouves en série, puis il y a des joueurs qui s'élèvent dont t'as jamais entendu parler en saison régulière. Puis là, soudainement, t'es comme, mon Dieu, ils sont en train de faire le job eux autres tout seuls.
Mais je pense que les partisans du Canadien devraient s'admettre tout de suite que Cole Caulfield vous gagnera pas une Coupe Stanley. Puis moi, je l'échangerais là. Je l'aurais changé cet été, moi, Cole Caulfield. C'est la plus grosse valeur qu'il y aura jamais. Il vient de scorer 50 buts En série, ils livrent pas.
Hey, je suis pas d'accord.
Hey, crime. On veut tout le temps échanger du monde quand ils sont pas bons. C'est pas ça le but. T'échanges le gars quand il est au top de sa valeur. Moi, le gamble que j'aurais pris avec Caulfield, c'est qu'après une saison de 50 buts, il est au top de la valeur qu'il n'y aura jamais. Va te chercher des joueurs qui vont livrer en série.
Oui, mais je veux dire, 50 buts, il va être nécessaire dans la prochaine saison. Là.
Oui, mais tu vas aller chercher du plus-value parce que Cole Caulfield, présentement, a une valeur incroyable sur le marché. Je ne sais même pas si on peut l'échanger. Je ne sais même pas il est rendu où dans son contrat. Je connais
Gérard d'Estrade.
Absolument. Je ne connais pas les technicalités. Mais moi, c'est un gamble que j'aurais fait parce que les partisans, en général, c'est tout le temps pareil. Ils prennent le joueur le plus poche de l'équipe et ils veulent Connor McDavid en échange. À mon sens, ça ne marche pas de même d'habitude. Donc, Ivan Demidov est noté à 88% sur la nouvelle édition du NHL 2027 et le quatrième meilleur attaquant du Canadien après Suzuki à 93, Caulfield à 90 et Demidov à 88. C'est le grand. C'est Juraj Slafkovski qui a une note de 87. On n'a pas fait le tour des gardiens de but encore. Moi, j'ai hâte de voir où Jakub Dobesch va se classer. Et chez les défenseurs, Lane Hudson va se classer comment par rapport aux autres? Puis ceux qui trouvent ça niaiseux, dites-vous que les joueurs eux-mêmes attendent ces notes-là avec énormément d'impatience. C'est des gens qui ont un petit orgueil aussi, eux autres.
Oui, mais moi, le 18 août, tu vois, on dirait que je suis vraiment pas dans le mood du hockey. Je t'écoute, je suis comme, hey, je vais avoir du rattrapage à faire au mois de septembre.
Moi, c'est drôle. Je me suis ennuyé. Je me suis vraiment ennuyé du hockey. Je me suis ennuyé de Pierre Houde cet été. J'ai jamais autant écouté de matchs à RDS en français que dans la dernière année. J'ai lâché mes Bruins.
Ça, je comprends.
Puis moi,
j'aime que le hockey dure une couple de mois par année, puis j'aime avoir une pause la plus longue possible. Puis cet été, on n'a pas trop entendu parler. T'sais, il y a des années où ça en jase beaucoup plus. Là.
Je sais de quoi tu t'ennuies.
De quoi?
Tu t'ennuies des chansons Max, et du pas. Petit Cocofield.
Oh,
ah ben oui!
Je l'avais presque oublié.
C'est pour ça qu'il faut l'échanger, le Petit Cocofield. Il sera plus dans les chansons si on l'échange, le Petit Cocofield. Il est 3h30. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Fait que les gens qui ont payé une centaine de bâtons là, pour jouer au prochain jeu de la NHL, eux autres vont avoir un accès privilégié une semaine avant la sortie du jeu.
Wow.
Donc, au lieu d'avoir le jeu le 11 septembre, eux autres, le 4 septembre, le jeu va se télécharger dans leur console. Puis pendant une semaine, ils vont être les seuls à jouer. Puis encore une fois, vous trouvez peut-être ça niaiseux, mais vous seriez surpris en regardant autour de vous de voir le nombre de personnes qui ont payé plus cher pour commencer à jouer avant tout le monde.
Puis habituellement, c'est ceux qui, quand ils ont annoncé, je sais pas, des nouveautés ou quoi que ce soit, ont dit « Ah, oh, moi, cette année, je ne paierai pas, je vais attendre. »
Ah, c'est
la première chose que tu sais, c'est qu'ils ont déjà commencé à jouer.
Oui, je vais te parler du cycle, OK, du gamer sportif. Parce que c'est vrai pour ceux qui jouent au football, c'est vrai pour ceux qui jouent au soccer, au baseball, au basketball et au hockey. C'est toujours la même affaire parce qu'il y a un jeu qui sort par année. Le jeu sort, tu l'achètes. Ah, ouais, il ressemble à l'autre, hein? Ouais, il ressemble à celui de l'année passée. Il me semble que, ouais, on n'est pas sûr. Puis là, il joue un peu, il gagne une Coupe Stanley, il gagne un Super Bowl, puis après ça, ils se disent, pff, l'année prochaine, je me ferai pas prendre. Puis là, les nouvelles annonces commencent à sortir. Puis là, les informations des nouveaux jeux commencent à sortir. Là, tu te crains tout seul, puis tu te dis, ah, tabarnou, je l'achète encore cette année. Et le cycle recommence. Ouais, il me semble qu'il ressemble à celui de l'autre année, puis ainsi de suite. En passant, c'est Macklin Celebrini qui est en une de la couverture du jeu cette année.
Décès du drummer de ZZ Top, ça vient juste de sortir au courant des dernières minutes. Frank Beard, qui était là pratiquement toute sa vie, là, de la fondation du Ben en 1969 avec Billy Gibbons jusque
ça
les dernières fois que ZZ Top a donné des shows.
Il reste un ZZ Top.
Il reste Billy Gibbons.
Ouais. Celui qui était à l'avant-scène, ouais. Parce que l'autre était décédé il y a quelques années de ça déjà.
Oui, il serait décédé le 17 août, donc hier, du côté du Texas, dans son ranch, avec sa famille à ses côtés, après être resté en soins palliatifs, de ce qu'on peut comprendre, pour ce qui est de la cause du décès. Par contre, ça n'a pas été dévoilé. Il y a d'ailleurs eu un message qui a été publié par Billy F. Gibbons, justement, le fondateur de ZZ Top, en disant qu'il avait perdu un grand ami, un collaborateur, que le monde avait perdu un des plus naturels et des plus innovants comme percussionniste. Puis un Great and True Son of Texas.
Yes!
Son backbeat signature était la clé pour garder ZZ on top. Le groupe duquel il a fait partie pour 6 décennies va continuer de garder sa mémoire comme il le souhaitait.
C'est comme ça que le band aurait dû s'appeler ZZ on top. On oublie à quel point les gars sont vieux parce que ZZ Top a tellement eu une résurrection dans les années 80 grâce aux vidéos sur MTV. À l'époque de Give Me All You Lovin', à l'époque de Sharp Dressed Man. Des belles filles, des beaux chars.
Ah, il avait compris, hein?
Deux barbus et un frisé. She's got legs and she know how to use it. C'est bon aussi ça. Tu sais, les gars avaient déjà une partie de carrière d'entamer avant qu'ils trouvent leur fameux look et avant qu'ils forment le ZZ Top qu'on connaît aujourd'hui. Puis c'était déjà un groupe relativement établi quand ils sont arrivés avec l'album Tres Hombres en 1974. C'est là-dessus qu'il y avait La Grange. Ironiquement, le seul qui n'était pas barbu dans le groupe s'appelait Frank Beard.
Et c'était son vrai nom, hein?
Ouais.
Frank Lee Beard. C'était pas un nom pour fitter avec le groupe.
Donc, le batteur de ZZ Top décédé aujourd'hui à l'âge de 77 ans. Il est 15h35, vous êtes à Boulevard. On a 25 degrés à Québec avec du soleil. C'est Gravel dans le retour. On vient.
Gravel. International, ça.
Québec, pas pantoute.
Ben voyons, vous êtes certain?
Come on! Ah là, je vous reconnais!
Gravel dans le retour. Ça gagne à être connu.
Okay. Il y aura de la pluie demain, mais pour le reste, c'est du soleil mur à mur. Ça regarde bien, entre autres, pour le match Boulevard des Capitales jeudi soir au stade Canac. Ramassez vos billets capital avec un S de québec.com. Aujourd'hui, présentement, c'est 25 degrés. C'est full soleil, minimum de 14 ce soir et cette nuit. Demain, 60% les chances d'averse. Il y a des orages prévus en après-midi. Et après ça, c'est le soleil qui revient jeudi, vendredi et samedi sur les routes Audrey.
Si vous êtes sur la capitale direction ouest, ça vient d'apparaître à la hauteur d'Henri Bourassa, la voie du centre qui est bloquée, une panne de ce côté-là. Je regarde la carte, ça commence à s'installer pas pire. Capitale direction est, c'est entre Henri IV et Robert Bourassa. Ouest, il y a d'ailleurs un ralentissement à hauteur Robert Bourassa qui est plus inhabituel dans le coin de Laurentienne, sinon. Et entre Seigneurial et Henri Bourassa, toujours sur la capitale ouest. Sinon, Henri IV Sud, ça se passe entre Wilfrid Amélie, pont Duplessis Sud, Charret et les ponts. Un peu plus haut dans le coin de Shannon, il y a un léger ralentissement dans les deux directions, route de la Bravoure, devant la base militaire. Pour ce qui est de la rive sud, c'est la 20 direction ouest, entre la route du président Kennedy et Taniata. Et il y a toujours ce problème-là, là, si vous êtes sur Guillaume Couture, entre Chemin des Îles et Taniata. D'ailleurs, je viens de zoomer là, sur la 20 ouest, directement à la hauteur de Chemin des Îles, semble y avoir un accident, ce qui n'aide vraiment pas le ralentissement. Autre chose, 88 971 102 un texto.
Si vous nous écoutiez ce matin, vous savez qu'il y avait une annonce conjointe de Boulevard 102.1 et de Paul Saint-Pierre-Plamondon pour confirmer que les deux nouvelles voix de Boulevard 102.1, Nicolas Lacroix et Catherine Saint-Laurent, ne seraient pas en onde tant et aussi longtemps que Donald Trump allait être président.
Non, t'as mêlé des affaires.
Je pense que j'ai mêlé une coupe d'affaires.
Ça a été un gros
7h30,
hein? Denis. Hein?
Oui, ben là...
Le café est arrivé à 7h35.
On suivait beaucoup de choses en même temps. Ça se peut que je me sois mélangé un petit peu.
Vieux monsieur. Hein?
Pour revenir à la base, Paul Saint-Pierre-Plamondon avait convoqué les médias et a fait son annonce qui était, oui, quand même assez longue et fastidieuse, mais en gros, ce qu'il disait, c'est tant et aussi longtemps que le président Donald Trump allait être en place, il n'y aurait pas de référendum du côté du Québec. Et parlant de Donald Trump, ben quelle surprise! C'était un autre bluff et vraisemblablement, les nouveaux tarifs n'entrerait pas en vigueur demain, c'est
en
ça?
En fait, Trump entrevoit un sursis tarifaire. Mais là, ben, ça reste toujours à confirmer, puis on va aller aux nouvelles. Mais tu sais, on savait qu'il était censé y avoir un appel entre Mark Carney et Donald Trump, vraisemblablement dans la... On disait entre lundi et mercredi. Est-ce que ça a rapport? Est-ce que le poids du côté des chambres de commerce américaines qui demandaient à Trump, « Hey, fais pas ça, c'est pas une bonne idée. » Est-ce que ça finit par être entendu ou...
C'est juste
un autre jouet,
tête.
Là.
Ben
je
ne oui,
sais pas,
ça.
J'en ai aucune espèce d'idée. Mais on va tenter de valider quelques informations.
Parmi les gens qui ne semblent pas tomber en bas de leur chaise, on s'en va rejoindre notre analyste politique, Antonine Iaccarini. Salut, Anto.
Allô.
on commence malheureusement à être habitué au manège.
Ben, écoute, moi, c'était ma prédiction, là, puis je dis pas ça pour me vanter, mais on connaît un peu la façon de faire de Donald Trump.
Ouais.
C'est un peu, il nous fait un peu ce qu'il a fait avec l'Iran, là. C'est comme, les négociations se poursuivent, donc je vais attendre, là, avant de vous bombarder, là. On est là-dedans aussi avec nos négociations avec les États-Unis. Puis, de toute façon, même si on en était arrivé à une entente avant demain, là, qu'est-ce qui aurait empêché Donald Trump de ne pas la respecter puis de recommencer? C'est sa façon de faire. Tout ce qu'il fait, c'est créer de l'incertitude, nous surprendre, nous envoyer des bombes au sens figuré, bien sûr, pour par la suite réussir à aller chercher des concessions et des gains du côté du Canada, ce qui fonctionne très bien. On en a donné plusieurs d'ailleurs, sans jamais avoir eu rien en échange. Donc, même s'il y avait une entente cette semaine, je pense pas qu'il s'empêcherait de continuer son petit manège, là.
Mais vu qu'on est là-dessus, commençons avec ça, Antonine. Est-ce que tu as l'impression que c'est Mark Carney qui fait pas la job? Parce qu'on a vu dans les sondages que de plus en plus voudraient qu'on tienne la ligne dure face aux États-Unis.
Oui.
Ou on fait juste, malheureusement, prendre conscience de notre réel pouvoir dans l'équation? Puis est-ce qu'on peut vraiment tirer notre épingle du jeu quand le monstre de l'autre côté de la frontière décide juste de faire du caprice puis d'en faire à sa tête?
Ouais, écoute, hier, quand il y a eu la rencontre entre Dominique Leblanc et les officiels de Washington, la rencontre a duré plus longtemps que prévu. Quand les acteurs sont sortis de la rencontre, il n'y avait pas de commentaires à faire. Ça, d'habitude, c'est des bons signes. Hein? Dans une négociation normale, on se dirait, OK, on est proche d'un accord, personne ne veut rien faire dérailler, ça dure plus longtemps, ça veut dire qu'on est rendu, on se dit, ah, bon, on va continuer, on est presque rendu à s'entendre. L'affaire, c'est qu'on n'est pas dans une négociation qui est normale, puis je pense que les gens de notre côté de la frontière le savent très, très bien. Par contre, depuis le début, Mark Carney a réussi un peu à apparaître comme le moins pire des chefs pour négocier dans cette situation-là, mais les gens savaient bien que c'était pas une situation qui était normale et les attentes n'étaient pas là qu'il règle tout du jour au lendemain. Mais pendant la campagne électorale, il nous a promis quand même certaines choses, notamment qu'il allait tenir la ligne dure. Les messages des libéraux, là, ça ressemblait beaucoup plus à ceux de Doug Ford. On va se tenir debout, elbows up, on va répliquer. Et finalement, on sent que ça fonctionne pas comme ça dans la vraie vie, puis face à un adversaire comme Donald Trump. Et je dois dire que moi, j'ai senti vraiment le vent tourner quand on a décidé de reculer sur la contribution pour les plateformes numériques. Il y avait eu l'été passé la taxe Netflix.
On est exactement à la même place, Antonine. Quand on est revenu de vacances, je me suis dit, si tu veux voir le réel pouvoir du Canada face aux États-Unis, regarde comment on s'est couché dans le dossier Netflix, alors qu'habituellement, ces réglementations-là, tu sais, pour avoir maille à partir avec le CRTC ici d'une façon locale, c'est des gens qui sont pas très ouverts à la négociation consultation sur la réglementation, mais ça a de l'air...
D'habitude, c'est très à sens unique.
Ouais, ça a de l'air pas mal plus facile de se coucher à terre en avant de Netflix que, mettons, d'essayer d'entendre des stations de radio qui se meurent à la grandeur du Canada, là.
Ouais, puis on sent que le CRTC s'est essayé, voulait faire appliquer la réglementation. Puis c'est pas une organisation qui donne des conseils au gouvernement, hein, c'est un tribunal, là, le CRTC. Là. Donc, d'habitude, ils disent quelque chose, puis on est obligé de l'appliquer.
Exact.
Mais là, dans le cadre des négociations, disons que le timing n'était pas très bon. Mais l'impression qui est restée, je pense, dans la tête des gens, c'est que c'est Donald Trump qui décide de nos politiques.
Ouais.
Qu'on soit d'accord ou non avec une taxe numérique, avec une contribution numérique, ben c'est qui décide de l'agenda politique de notre côté de la frontière en ce moment? C'est M. Trump. Puis là, on commence à sentir un mécontentement qui monte face à Mark Carney. Pas de ne pas avoir tout réglé tout d'un coup, mais de donner des concessions en échange de rien du tout. Puis là, on commence à avoir des inquiétudes, puisque la contribution numérique, ça n'existait pas avant. Donc, tu sais, c'est pas une énorme perte. Ça donne une impression qu'on ne décide pas chez nous.
Mm-hmm.
Mais par exemple, quand on va commencer à tomber dans la gestion de l'offre, dans des éléments plus culturels qui peuvent vraiment avoir un attachement là, du côté du Québec notamment, et dans nos secteurs économiques aussi qui sont cruciaux, et là, ça commence à être une autre game pour Mark Carney. Puis il est très chanceux parce que son adversaire principal, Pierre Poilievre, apparaît pas comme étant meilleur que Mark Carney pour négocier face à un Trump. Mais on voit, là, il y a un sondage d'Abacus qui est sorti dans les derniers jours, j'ai trouvé particulièrement intéressant, puis qui démontre à quel point Mark Carney est un peu dans la chenoute, là. Ça va encore correctement, là, mais tu vois le danger qui le guette. C'est que les gens sont très divisés sur la stratégie que le gouvernement devrait avoir face à Trump. Quand on demande aux gens est-ce qu'on devrait répondre avec des contre-tarifs, 36% des Canadiens qui disent oui, on devrait avoir des contre-tarifs par rapport aux États-Unis, même s'il y a des risques d'escalade, même si ça nous coûte plus cher, alors qu'il y a 30% qui disent non, on continue de négocier sans contre-tarifs, puis tu as un 18% qui dit donnez donc des concessions aux États-Unis. Bon, je connais pas ces gens-là, je juge un peu leur réponse, mais tu vois à quel point c'est divisé.
Ouais.
Donc, peu importe la direction que Mark Carney va prendre, il va y avoir des mécontents du côté de la frontière. Puis, peu importe les options qu'on choisit, il va y avoir des conséquences économiques.
Et il y a l'urgence de régler dans ces chiffres-là aussi, parce que les gens qui disent donner des concessions aux États-Unis, c'est des gens qui considèrent qu'on n'a pas de pouvoir de négociation, mais qu'on doit régler ça au plus vite d'une façon ou d'une autre.
Tu parles du sondage Abacus, il y en a un léger qui est paru dans la dernière heure et demie, qui est encore plus récent. Puis tu vois qu'au Québec, on est la province où les gens sont les plus exigeants par rapport à ça, en disant que Ottawa est trop passif. Puis tu vois qu'il y a des appuis à des mesures de rétorsion commerciale, comme par exemple des taxes sur l'électricité, sur les exportations de gaz et de pétrole, ou encore même d'empêcher les entreprises américaines de pouvoir bider sur des appels d'offres des marchés publics canadiens.
On est émotif, je trouve, quand même, au Québec, quand on regarde un peu ça, parce que de mettre des taxes supplémentaires, commencer à jouer avec l'énergie là, avec les Américains, les amis, là, c'est très dangereux. Là. C'est quelque chose qui est considéré comme étant hyper stratégique par Washington. Déjà qu'ils sont très insultés qu'on ait enlevé l'alcool sur nos tablettes, c'est juste pour vous dire. Là. Si vous commencez à faire comme Doug Ford prônait, c'est-à-dire on leur coupe l'énergie si jamais ça fonctionne pas, vous allez voir que le ton va changer. Là. Il n'y en aura pas de négociation. Mais en même temps, on sent quand même qu'il y a une colère de ne pas être capable de se tenir debout.
Oui.
Là, c'est là que Mark Carney a une petite fenêtre dans laquelle passer. Il s'est fait poser la question, il était à Saint-Jean hier avec Christine Fréchette puis le premier ministre de Terre-Neuve. Il s'est fait poser la question, est-ce que vous êtes capable de tenir tête aux États-Unis? Il y a eu un lourd silence, on entendait très bien le bruit des mouettes sur le bord de l'océan Atlantique, mais tu vois qu'il y a vraiment, il est sur le fil du rasoir, puis il a dit quelque chose du genre, mais je peux pas négocier sur la place publique, mais j'ai des options. J'étais pas très convaincant, je vous dirais.
Antonine, évidemment, je veux savoir ce que tu penses de l'annonce qui a été faite par le chef du Parti québécois ce matin, Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais avant, je veux savoir si, pendant une microseconde ou deux, tu as pensé que Paul Saint-Pierre Plamondon allait annoncer son recul sur son engagement de référendum pendant un premier mandat. Parce que de la façon que ça a sorti hier, en fin d'après-midi, on avait l'impression qu'il allait annoncer sa retraite, son départ, tu sais, de la façon qu'il avait fait ça sur ses réseaux sociaux.
Est-ce qu'il a fait un Catherine Fournier, à votre avis?
Ça ressemblait peut-être à ça un peu, là.
Hein, la mairesse de Longueuil qui avait convoqué les médias sur son avenir politique, ben ça oui. a écrit énormément de spéculations. Là, moi, mon téléphone avait explosé. Tout le monde voulait savoir qu'est-ce qu'elle allait annoncer. Puis elle annonçait finalement qu'elle se représentait aux élections municipales l'automne dernier. Non, pour répondre à ta question, Nani, je n'ai jamais pensé que PSPP allait reculer parce que ce serait épouvantable. Le 30 % qu'ils ont présentement le PQ dans les sondages, ben c'est pas mal le 30 % des gens qui disent qu'ils voteraient oui s'il y avait un référendum.
Ouais.
Il a basé tout son brand politique sur le fait qu'il était transparent, qu'il disait les choses telles qu'elles sont, qu'il était quelqu'un en qui les gens pouvaient avoir confiance. S'il commençait à reculer après 5 ans à dire qu'il allait avoir un référendum dans un premier mandat à quelques jours du déclenchement des élections, ce serait catastrophique pour lui. En même temps, je pense que ces candidats ont fait du terrain cet été. Ils ont sûrement fait du petit focus group aussi. Ils écoutent les chroniqueurs, les animateurs de radio. Puis ils se rendent bien compte que, effectivement, l'argument de dire « est-ce que c'est le temps en ce moment de faire un référendum alors qu'on est dans une crise sans précédent avec les États-Unis puis qu'on essaie de faire des partenariats avec les autres provinces? » Je pense qu'ils ont quand même entendu le message. Puis PSPP, on essaye beaucoup de lui accoler cette étiquette de personne qui est rigide, qui n'écoute pas, qui est têtue, qui lui a raison. Je pense pas que ça vient de nulle part, là, puis que c'est un grand complot injustifié. Mais il a quand même réussi à nous prouver cette semaine avec ce pas de côté, c'est pas un recul, mais c'est un pas de côté qui nous dit qu'on va attendre le départ de Trump avant de faire un référendum, ce qui nous amène un petit peu plus loin que la mi-mandat d'un mandat majoritaire.
Mais là, on n'est pas loin...
Il était capable d'être flexible.
Oui, mais on n'est pas loin d'un verbiage qu'on a déjà entendu au Parti québécois concernant des conditions gagnantes
ouais.
aussi.
Ah, les conditions gagnantes, l'étapisme.
Oui.
C'est toutes des époques que j'ai connues et que j'ai tellement entendues. Effectivement, c'était le risque. Hein, probablement que quand ils se sont fait une petite réunion, là, dans le bureau, là, puis on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, ils se sont dit, oh, on va essayer de pousser juste qu'on fait des précisions, que ça a toujours été ça, qu'on l'avait déjà dit. Mais évidemment que, moi, j'ai vu ça beaucoup dans les commentaires sur les médias sociaux, que c'était le retour des conditions gagnantes. Mais en même temps, je veux dire, il ne peut pas être complètement déconnecté puis faire semblant que l'anxiété que les gens vivent en ce moment, elle n'existe pas. Mmh. Les gens sont en train de se demander pour qui ils vont voter encore. Hein. Beaucoup d'indécis, beaucoup de gens qui disent que leur choix n'est pas définitif. T'as une Christine Fréchette qui arrive, qui essaie de redonner un souffle nouveau à la CAQ en disant « Vous pouvez compter sur la CAQ pour défendre la langue française, la laïcité, pour limiter l'immigration, pour et vous évitez un référendum. » Donc, évidemment que PSPP n'a pas le choix, quelque part, de se réajuster face à cette situation-là.
T'sais, les cyniques vont dire « Oui, mais c'est de la pure stratégie. Ça fait 1 an et demi qu'on est dans cette situation-là. Ça fait 1 an et demi que la question lui est posée. Ouais. Il n'y a rien de nouveau. » Outre des résultats de sondage qui continuent à dire qu'il y a 50 % des gens qui sont indécis puis qu'il y a très peu de gens qui sont pour un référendum et que le PQ risque, s'y passe, d'être un gouvernement minoritaire, il n'y a rien de neuf sous le soleil pour ajouter ça ce matin.
Je pense qu'ils ont fini par comprendre que dire aux gens « arrêtez de stresser », ça ne déstresse personne. Okay? Dans la vie, quand quelqu'un est anxieux,
stresse pas,
dire « t'as pas raison », stresse pas, calme-toi, ça n'a jamais fonctionné. Donc, qu'est-ce qui fonctionne, c'est de dire, un, votre anxiété, elle est valide, elle existe, je l'acknowledge, je la reconnais. Maintenant que ça c'est dit, voici ce qu'on va faire. Puis qu'est-ce qui a tendance à baisser l'anxiété, c'est de la prévisibilité, de la transparence, de la cohérence. Donc, c'est ce qu'il a décidé de faire avec cette annonce-là. Puis, dans les faits, il l'avait déjà dit. Ouais. En février dernier, après l'élection partielle dans Chicoutimi, il a prononcé un discours dans lequel il a dit « on sera pas fous, là. Okay? On le sait, Trump sera pas là pour toujours. On va être responsable, on va faire les choses correctement. » Tu sais, dans le fond, c'est juste que c'est pas tout le monde qui l'avait entendu, ce message-là. Moi, j'ai trouvé sa stratégie de com' plutôt habile aussi. Parce que hier soir, il nous a fait une petite publication sur les médias sociaux là, qui nous teasait. On voyait qu'il avait plus trop envie de parler de Churchill Falls parce que visiblement, c'était quelque chose qui était positif pour Christine Fréchette. Moi, je crois que c'était un bon coup pour elle. Il a voulu changer de sujet. C'est le roi de la diversion, hein, PSPP. Là, vous vous rappelez, à la fin de la session parlementaire, il avait fait un lien entre le crime organisé et le Parti libéral. Pourquoi vous pensez qu'il avait fait ça? C'est parce que ça, il tentait pas de parler du bilan de la session. Il n'y avait pas énormément de choses à mettre de l'avant.
L'annonce, pour toi, c'est une réaction à l'entente de Churchill Falls pour amener vraiment le narratif ailleurs.
Je pense qu'il fallait qu'il le fasse de toute façon, mais que le timing qui a été choisi de faire ça immédiatement la même c'est journée que la conférence de presse, c'était une stratégie de communication.
Puis en
Oui.
Ben, j'allais dire, moi, je trouve ça même intelligent parce que tu vois, je le disais un peu plus tôt dans l'émission avec Don, mais moi, je fais partie des cœurs à prendre dans la mesure où je suis pas souverainiste dans l'âme, mais en même temps, demain matin, tu me prouves qu'on est bien tout seul puis séparé du Canada. Ben, si ça fait bien du sens que tu me présentes, je veux dire, je suis pas celle qui va. Ben oui, je suis très prête à embarquer dans le bateau.
Tu seras pas dans l'autobus du nom, là.
Non,
t'es encore,
c'est ça.
T'es sur le trottoir, là, t'attends le bus.
Moi, je suis dans l'arrêt puis je fais du pouce, là. Fait que, je suis très ouverte, puis tu vois, une sortie comme ce matin, j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis dit, ah, ben mon Dieu, ça me donne le temps, si j'ai envie de voter pour lui, peu importe la raison, de me dire qu'il va pouvoir me prouver le pourquoi du pourquoi, puis sa façon de faire, puis c'est quoi son plan de match. Puis ça va être plus facile pour moi de prendre une décision éclairée si réellement il nous pitche dans un référendum dès que Donald Trump n'est plus là, tu sais.
Moi, je suis d'accord avec ton analyse et j'ajouterais que je regarde les commentaires sur les plateformes de médias sociaux et ceux qui disent « c'est un recul, c'est épouvantable, c'est des adversaires, c'est pas des souverainistes. » C'est pas les, t'sais, présentement, les gens qui voteraient oui, ils se disent pas « mon Dieu, mais quelle trahison! » C'est pas du tout. Les gens trouvent que ça a bien de l'allure. Puis si vous regardez ce qui s'est passé en 95 puis en 1980, ça prend du temps quand même de préparer un référendum. Je pense que c'est correct. Au niveau de la stratégie de com', de faire une déclaration par écrit ce matin à 7h30 qui donne l'occasion à tout le monde de reprendre le message intégralement sans que ce soit dans une conférence de presse qui va dans tous les sens parce qu'on pose des questions sur Churchill Falls, etc. ou qu'est-ce qui va arriver si c'est un gouvernement minoritaire, par exemple, parce que ça, on n'a toujours pas la réponse. Bien, ça a permis à son message de vraiment se cristalliser. Puis après ça, il se rendait disponible pour des entrevues, ce qui fait qu'il n'a pas l'air d'être poltron ou de se cacher. Donc, j'ai trouvé que c'était une séquence de com bien organisée. Puis je pense que ça va avoir été positif pour le PQ.
Parlant de séquences de com bien organisées, qu'est-ce que tu penses du livre noir sur les vieux partis qui vient d'être lancé par le Parti conservateur du Québec? As-tu le temps de checker ça un peu? C'est un document de 17 pages.